Bonjour Smaïla Cher.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Strasbourg. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur l'immigration, les déplacements de population. Et vous avez été assesseur pour le Haut Commissariat aux réfugiés de 1999 à 2014 à la Cour nationale du droit d'asile. Expérience que vous racontez aujourd'hui dans un livre intitulé « Croire à l'incroyable », un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, un livre paru aux éditions Gallimard. L'Aquarius, avec à son bord 629 migrants vivants, est donc arrivé dimanche dernier à Valence en Espagne. Mais mercredi, journée mondiale des réfugiés, le HCR indiquait que 200 migrants avaient péri en mer au large des côtes libyennes. L'Italie annonçait vouloir expulser les Roms. La Hongrie votait un arsenal législatif visant à punir d'un an de prison l'aide aux migrants. Et Donald Trump, aux États-Unis, assumait la décision de séparer 2300 enfants de leurs parents entrés illégalement sur le sol américain et quittait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Demain, doit se tenir à Bruxelles un mini-sommet sur ce qu'on appelle désormais, et je mets le mot entre guillemets, la crise migratoire, que les pays d'ailleurs d'Europe centrale vont boycotter, ce mini-sommet. Cette crise migratoire, comment la jugez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord, d'abord, Smaïla Cher, vous qui travaillez depuis longtemps, je le disais, sur les migrations, avec ce terme même de crise des migrants ou crise migratoire?
Non, moi je n'ai jamais employé le mot crise. En y ajoutant migratoire, je crois qu'il n'y a pas de crise migratoire depuis longtemps, depuis plusieurs siècles maintenant, et plus particulièrement depuis le 18-19e siècle, la question migratoire est un enjeu important. La question de l'étranger et de l'accueil de l'étranger est une question très très importante pour les États nationaux, et en particulier depuis que les États nationaux existent, depuis que les États se sont constitués comme États, avec un territoire, avec des prérogatives, et avec cet ultime pouvoir de pouvoir définir ce qu'est un étranger et ce qu'est un national. Donc il n'y a pas de crise, puisque si vous faites un tout petit peu d'histoire, il faut faire de l'histoire, car comme disent les historiens, le présent ce n'est rien d'autre que de l'histoire en acte. Si vous faites de l'histoire, vous vous apercevez que la figure de l'étranger, l'accueil de l'étranger, la question fondamentale de l'hospitalité, eh bien, est un enjeu capital, et que ça a toujours fait l'objet de luttes au sein des sociétés nationales, mais entre les sociétés. Il n'y a pas de crise.
Comment expliquez-vous dans ces conditions, dans ce contexte, le hiatus entre ce que vous dites et la perception? Alors, la perception des représentations dans les sociétés, ce qu'on nous dit en permanence, c'est-à-dire la pression migratoire, en particulier depuis 2015, le fait quand même que, selon l'ONU en 2017, le nombre de réfugiés déplacés en raison de conflits a atteint 68 millions de personnes, ce qui, du coup, dans l'imaginaire collectif, paraît considérable. Donc, comment expliquer cette différence, ce hiatus?
Mais parce que les mouvements migratoires sont, encore une fois, des enjeux capitaux pour les États nationaux, mais c'est aussi, comment le dire, c'est aussi spectaculaire. C'est aussi dramatique, tragique. Le tragique et le spectaculaire, d'ailleurs, accompagnent souvent les mouvements migratoires internationaux. Et puis, je pense que ce n'est pas tant la question de l'économie qui est un enjeu autour des mouvements migratoires. Je pense que c'est fondamentalement une question d'identité. Et on peut le voir si on prend tous les discours sur les mouvements migratoires.
L'identité pour les pays d'accueil?
Absolument, pour les pays d'accueil. Il y a crise, on pourrait dire qu'il y a crise lorsque il n'y a plus de définition, il n'y a plus de consensus sur la définition légitime de l'immigration. Par exemple, dans les années 60-70, il n'y avait pas d'enjeux extrêmement importants, de polémiques extrêmement graves, solennelles. La question de l'identité nationale, d'abord, n'était pas posée. On ne la posait pas, elle ne faisait pas l'objet de longs et savants commentaires, ou de longs et savants et militants commentaires. Bon, on parle de crise à chaque fois qu'il y a effectivement qu'il y a effectivement la question de l'hospitalité qui est discutée.
Mais peut-être pas seulement, Smaïl Nacher, quand malgré tout on entend, et ça c'est pas des chiffres inventés, mais pas, le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, donne des chiffres qui correspondent à des réalités quand il recense plus de 200 noyés en Méditerranée au large des côtes libyennes, rien qu'en deux jours cette semaine, ce qui porte à 1000 le nombre de personnes migrantes mortes en mer centrale depuis le mois de janvier. On a quand même l'impression, et on nous le dit en permanence, que de semaine en semaine, de jour, les jours suivent les jours, avec des morts, des personnes qui meurent en mer.
Oui, c'est vrai.
On a l'impression que depuis 2015, en tous les cas, le nombre de personnes qui meurent en mer ne cesse d'augmenter. Et ça, on ne l'avait pas vu il y a 30 ans. Enfin, depuis les boat people, disons, des années 70, on n'avait pas entendu ça. Donc, c'est cette question-là que je vous pose. Parce que derrière se pose la question de la demande de la population. On nous dit les gens veulent que d'un côté, et puis de la volonté politique de l'autre. Est-ce que c'est une volonté politique d'accueillir ou pas? Mais est-ce que de l'autre côté, il y a un réel rejet des étrangers parce qu'on a une peur de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive? C'est ça qui est en jeu.
Oui, je comprends parfaitement. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Je ne le crois pas. On pourrait citer des chiffres. Je pourrais vous en citer deux ou trois. C'était pas la peine d'assommer vos auditeurs et vos auditrices avec des chiffres. Vous avez cité les boat people. N'oubliez pas que les boat
qui venaient
people,
du Vietnam
en 70, en 70, qui venaient du Vietnam, du Cambodge et en partie du Laos, et qui fuyaient les atrocités de la guerre du Vietnam. Je voudrais vous signaler qu'avant d'arriver en France, leur bateau a quand même pas mal circulé en mer et s'est vu refuser d'accoster dans trois pays, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. On pourrait prendre de nombreux exemples comme ça. Bon, donc, on ne parlait pas de crise à ce moment-là, on parlait de questions d'hospitalité. Par ailleurs, arrive beaucoup de monde. Je voudrais juste rappeler quelque chose d'absolument élémentaire que les démographes savent, que même les chiffres des Nations Unies montrent tout à fait explicitement, c'est que c'est vrai, il y a environ 65 millions de personnes qui ont été forcées à l'exil dans le monde. Bon, ça c'est des chiffres sur lesquels on peut se mettre d'accord. Mais on pourrait dessiner trois grands groupes. D'abord le groupe des réfugiés qui sont environ 22 millions dans le monde. Ce sont des chiffres qui valent pour la planète. Pour les demandeurs d'asile, c'est environ 3 millions, un tout petit peu moins de 3 millions dans le monde. En fait, le gros de la troupe, il n'est pas du tout en train de circuler entre les nations. C'est en réalité à l'intérieur même des pays que se situent les enjeux extrêmement importants. Plus de 40 millions de personnes sont des déplacés internes selon la terminologie des Nations Unies. Ce qui est énorme. Et donc ces personnes-là sont en fait des nationaux sans État. Est-ce qu'on parle de crise à leur propos? Dernier chiffre quand même pour rappeler à un ministre de l'Intérieur que la submersion n'est pas adéquate pour qualifier et comprendre ces mouvements migratoires. Nous sommes environ 7 milliards de personnes sur cette terre. Il y a environ entre 250 millions et 300 millions de personnes qui vivent en dehors de chez elles. On sait parfaitement qu'une fois parti de chez soi, dépassé un an dans le monde des autres, chez les autres, on reste définitivement chez les autres. En fait, ce chiffre veut dire quoi? Ces deux chiffres veulent dire quoi? Ils veulent tout simplement dire que la tendance profonde n'est absolument pas à la circulation, n'est absolument pas au déplacement. C'est à la stabilité. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs, et en particulier lorsqu'on est obligé de partir. Personne ne désire être mis dans l'obligation de quitter chez soi, parce qu'on ne s'imagine pas le traumatisme que signifie l'exil forcé, pas l'exil volontaire, mais l'exil forcé, ou pas le voyage pour études, ou pas le voyage pour tourisme.
Smaïl Nacher, dans le décompte assez large que vous faisiez des déplacés dans le monde, vous avez parlé des réfugiés, vous avez parlé des demandeurs d'asile, et puis on parle aujourd'hui aussi des migrants. Alors d'ailleurs, tout le monde est migrant, migrant économique, réfugié, cette distinction, qu'en pensez-vous?
Écoutez, moi,
Et d'ailleurs, est-ce que les migrants économiques obtiennent de temps en temps l'asile ?
Non, jamais. Non, non. Il faut impérativement évoquer et convoquer un fameux article de la Convention de Genève, qui est l'article 1 et 2, qui spécifie les 5 motifs de persécution. Et vous ne pouvez pas dire, écoutez, je ne me sens pas très bien chez moi, ou alors je n'arrive pas à trouver du travail, ou alors j'ai été licencié, et demander l'asile. C'est absolument irrecevable, c'est tout à fait inaudible par les institutions qui ont à traiter les demandes d'asile et les demandes de protection internationale. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire des distinctions qui sont, me semble-t-il, des distinctions certes compliquées parfois, mais des distinctions absolument nécessaires. Il ne faut pas confondre celui qui vient pour le regroupement familial, celui qui vient pour des études, celui qui vient pour du travail et celui qui vient demander une protection internationale. Je pense que c'est très très important parce qu'à vouloir tout confondre, à vouloir confondre les populations, à vouloir confondre les motifs d'émigration, à l'évidence, ce qui est visé en dernier lieu, c'est la question aujourd'hui majeure de l'asile et la révision la révision de l'asile, c'est-à-dire le nombre de gens et d'États qui veulent revoir, qui veulent refonder la question de l'asile. Écoutez, vous pouvez me croire, c'est certainement pas par le haut, c'est certainement par le bas. Et à confondre tous... migrants, étudiants, personnes venant rejoindre un conjoint, etc. À l'évidence, c'est accroître la tendance lourde qu'est la restriction au déplacement et à la circulation volontaire des populations.
Qu'est-ce que vous appelez, Smaïn Hacher, par le haut, par le bas ?
Ah, ben vous savez que un certain nombre d'États, je pense en particulier à l'Angleterre, je pense maintenant de plus en plus à la Suède, au Danemark, à l'Italie, à l'Espagne, mais voilà ce qu'ils disent. Je schématise, mais je ne caricature point. Ils disent, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où en réalité il y a très peu de gens qui sont persécutés. Le gros des populations qui se déplacent et qui demandent l'asile sont en réalité, d'après la terminologie indigène des États, ce sont des migrants économiques. Et donc, il n'y a plus besoin d'asile. L'enjeu principal aujourd'hui n'est plus l'asile, n'est plus la protection internationale, mais c'est les migrations. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est là-dessus qu'il faut focaliser les efforts. Et puis, l'asile, écoutez, on le donnera quand ce sera absolument nécessaire. Ou alors, on ira construire des hotspots dans des pays pas très stables, pas très recommandable, il faut l'avouer, le Mali, le Niger et Agadez. Vous citiez l'exemple d'Agadez.
Ce qui est en train de se passer.
Ce qui est absolument en train de se passer.
Bon, après, on peut considérer aussi que, au vu de ce que les migrants vivent en Libye et traversent en Libye, que ceux qui partaient pour des raisons économiques de leur pays deviennent en route des réfugiés aptes à demander, éligibles oui. À la demande d'asile.
Oui, oui.
C'est là que les choses deviennent peut-être aussi un peu compliquées.
D'ailleurs,
il y a une mission de l'OFPRA qui est à Valence auprès des migrants de l'Aquarius,
tout
dont beaucoup demandent l'asile en France. On peut aussi se poser la question du règlement de Dublin pour ces personnes-là, puisqu'ils sont arrivés en Espagne. Normalement, ils devraient demander l'asile en Espagne, mais ils sont...
Oui. C'est vrai.
Potentiellement éligible
à la
demande d'asile en France.
Mais vous savez que les États sont souverains. Et quand les États veulent faire l'économie du droit international ou des contraintes liées au droit international, ça ne leur pose absolument aucun problème. Ils sont à Valence. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol se sont mis en gros d'accord sur la répartition des migrants, puisque une dizaine d'officiers de protection de l'OFPRA sont partis à Valence faire ce que l'on appelle de l'éligibilité. Il y a de grandes chances que la majorité des 300 personnes qui feront l'objet d'un examen de la part de l'OFPRA soient acceptées comme demandeurs d'asile. Alors, soit sous la protection de la Convention de Genève, soit sous la protection subsidiaire. Et dans les deux cas, ils seront rapatriés en France, accompagnés dans leur démarche pour les mettre à l'abri. Et ils ne passeront pas par la CNDA puisqu'ils auront obtenu l'asile conventionnelle ou la protection subsidiaire à Valence. Mais ça, c'est un accord, en réalité un accord entre le gouvernement français et le gouvernement espagnol.
Vous qui avez justement été juge assesseur pendant 14 ans, Smaïl Nacher, à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile, quand certains prônent des procédures communes d'asile, l'instauration d'une solidarité entre États membres pour la répartition des demandeurs d'asile, on parle d'agence européenne de l'asile, vous diriez que le fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile est transposable ou étendable à d'autres pays?
Je prendrai quelques précautions. Je crois qu'il y a des traditions nationales qui sont extrêmement importantes, qui imbibent, pour parler comme Max Weber, qui imbibent l'esprit des personnes, des autorités, en particulier des gens qui s'occupent de l'asile. Je crois que rien n'est transposable. Je pense qu'il faut réfléchir à des harmonisations, mais encore une fois, j'ai peur que sous l'harmonisation se cachent des abaissements du droit, des rétrécissements du droit. Car, bien évidemment, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan la Hongrie de Viktor Orban et la France, et même l'Espagne ou l'Italie.
Donc si je vous comprends bien, Smaïl Nacher, pas de crise migratoire, mais une vraie crise du droit d'asile.
Sans aucun doute.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Il est 8h31 sur France Culture. Smaïl Nacher, restez avec nous pour écouter la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors Le Monde publiait une longue tribune en exclusivité hier, un manifeste engagé autant qu'une analyse implacable, signé Roberto Saviano, écrivain et journaliste mondialement connu pour ses enquêtes sur la mafia.
Et en ces jours comme jamais, écrit Saviano, je me sens comme un fleuve en crue qui doit expliquer pourquoi on ne peut laisser du temps à ce gouvernement qui a déjà causé trop de mal. Et ce mal ne vient pas de nulle part. Salvini est en train de mettre en œuvre la méthode Minniti, explique-t-il, du nom de ce penseur politique et membre du Parti démocrate italien, Marco Minniti, qui prônait une politique proche de celle de la Ligue, justement pour l'éloigner du pouvoir. L'année dernière, Minniti avait été le premier à vouloir fermer les ports aux ONG. Tout cela a préparé le terrain à ce qui se joue aujourd'hui. Point de stupeur, donc, écrit Saviano, mais une infinie amertume. Pour lui, la guerre qui se joue n'est pas pour ou contre la fermeture des frontières. Et de ce point de vue, l'épisode de l'Aquarius a été un piège, dit-il, le piège de la division, avec d'un côté ceux qui prétendaient donner une leçon à l'Europe et de l'autre ceux qui estimaient qu'on ne pouvait pas instrumentaliser 630 âmes pour obtenir des négociations. La réalité, c'est que tant qu'il y aura des personnes pour vouloir quitter l'Afrique en l'absence de moyens légaux, eh bien, il y en aura d'autres pour leur prendre leur argent et les y conduire. C'est pourquoi, selon lui, il faut cesser de verser des fonds à la Libye pour qu'elle retienne les migrants, une politique inefficace et criminelle. Quant aux responsables européens, eh bien, il ferait mieux de se taire, dit Saviano, plutôt que de lancer des insultes par calcul, car lorsque des vies humaines sont en jeu, le calcul n'est que cruel cynisme.
Quelle place nos sociétés accordent-elles encore aux droits humains? C'est aussi la question qu'on pouvait se poser cette semaine à la suite du retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Le déclin des droits de l'homme, un mouvement qui vient de loin, analyse le chercheur Jean-Marc Huissou sur le site de Conversation. Ce professeur en relations internationales parle d'un affaiblissement de la norme des droits de l'homme depuis les années 80, en cause notamment l'influence croissante de la Chine, de la Russie et de l'Inde dans les négociations et le réveil d'une vieille critique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle d'un texte qui véhiculerait une vision occidentale, colonialiste, ignorante des réalités et des valeurs sociales en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord. On peut y voir aussi, poursuit Jean-Marc Huissou, une certaine usure du temps. Écrit en réponse aux abus de l'absolutisme monarchique, le texte est aujourd'hui interprété à l'aune exclusive de l'individualisme moderne, déviant de plus en plus de sa signification première. Bref, les États-Unis, je cite, n'ont fait que prendre un train déjà lancé. Alors l'Europe prendra-t-elle le relais dans la défense du projet onusien? Rien n'est moins sûr, poursuit le chercheur, qui lui aussi, comme beaucoup de chercheurs ces derniers temps, fait le constat des démocraties européennes en crise où les populismes prospèrent. Dès lors, écrit-il, le véritable défi ne serait-il pas, non pas de défendre coûte que coûte les principes des droits de l'homme, mais de re-questionner leur signification, de les adapter aux contingences contemporaines, de reconstruire un consensus sur leur sens pour le monde moderne et celui à venir.
En Turquie, les électeurs sont appelés à voter demain pour les élections présidentielles et législatives. Une campagne verrouillée par le régime et une chance peut-être de sauver la démocratie.
Allez voter, c'est le message de l'intellectuel turc Ahmet İnsel à ses concitoyens dans le journal Cumhuriyet, à lire dans Courrier International. Car malgré les pressions, malgré l'inégalité flagrante entre le pouvoir et l'opposition, rien n'est joué pour Ahmet İnsel. Évitons surtout d'affirmer que Erdogan ne partira jamais, même en cas de défaite, car cela revient à renforcer sa domination. Il est temps de dire non, titre aussi de son côté le journal Sözcü, dans un édito toujours sur Courrier International. Sözcü est un quotidien turc d'obédience kémaliste, au ton non seulement très libre mais surtout très critique. L'AKP a commis trop d'abus, dénonce le journal, et nous avons surtout perdu l'innocence parce que tout est politisé désormais en Turquie, jusque dans les moindres détails. Le bien, le mal, le vrai, le bon ne sont plus bons ou vrais que si le pouvoir dit qu'ils le sont. C'est pourquoi, veut croire le journal, ce 24 juin, nous avons une occasion historique, je cite, de revenir à des jours heureux.
Une réaction, Smaïl Lacher ?
Enfin oui, deux petites réactions. La première, c'est sur la démission des États-Unis de la Commission des droits de l'homme.
De l'ONU ?
De l'ONU. Le papier du Monde a parfaitement raison de dire que les États-Unis ne prennent qu'un train déjà en marche depuis les années 80. Et par ailleurs, un certain nombre de personnes tout à fait autorisées, en Afrique d'ailleurs, hein, et en Europe, n'ont cessé de dire que les droits de l'homme étaient une pure production occidentale, européo-centrée, etc. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai historiquement, j'allais dire spatialement, mais beaucoup, en Afrique et ailleurs, heureusement qu'ils peuvent s'appuyer sur cette question fondamentale des droits de l'homme pour élargir l'espace des droits. Je pense en particulier à l'excision, au droit d'expression, à la liberté de conscience, etc. Et pour la Turquie, je ne me fais pas beaucoup d'illusions parce que je pense qu'Erdogan est encore très très très très puissant. Il a pour lui l'État et toute une série d'institutions, mais je pense qu'il en sortira un peu ébranlé et que au fond la démocratie va probablement pas gagner ce week-end entièrement, mais que on va douter de la puissance d'Erdogan. Voilà.
Smaïl Lacher est notre invité pour cette deuxième heure des matins du samedi sur France Culture. Smaïl Lacher est sociologue et il a été pendant 14 ans juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Expérience, Smaïl Lacher, que vous relatez dans votre ouvrage « Croire à l'incroyable », très beau titre mais qui correspond exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire la difficulté quand même pour un juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, qui, je le rappelle, est la Cour où viennent les déboutés du droit d'asile de l'OFPRA, ceux qui n'ont pas obtenu leur droit d'asile, donc c'est comme un recours. Eh bien, la difficulté, c'est justement pour le juge de croire au récit, puisque qu'est-ce qui fait qu'un demandeur est débouté ou pas ? Eh bien, c'est la crédibilité ou le caractère vraisemblable de son récit.
Absolument. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas rechercher la vérité, car elle est tout simplement inaccessible. Les juges ne sont pas sur le terrain, ne mènent pas d'enquête sur le terrain, bien souvent ne connaissent pas du tout le pays d'origine du requérant, ou alors comme simple touriste, et c'est quand même quelque chose de différent. Et donc, vous êtes devant des histoires, dans tous les sens du terme, des histoires qui tentent de vous faire croire des choses à la fois indicibles et incroyables. D'ailleurs, croire signifie aussi confiance. Et nous sommes dans une configuration, la Cour nationale du droit d'asile, comme dans beaucoup de juridictions d'ailleurs, dans une configuration où c'est des configurations où prime la défiance. Les juges ont une défiance a priori. Ils n'ont pas tout le temps eu. C'est à partir des années 80 que les populations se modifient. Ce ne sont plus les mêmes populations qu'auparavant. Ce ne sont plus des latino-américains ou des dissidents des pays de l'Est, mais plutôt des populations venant d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est. Et les juges voient avec une légère suspicion qui va aller en s'accroissant la venue de ces populations qui demandent l'asile. Et donc ils ont toujours pensé en réalité qu'un grand nombre d'entre eux instrumentalisaient l'asile pour accéder au territoire français.
Précisément, Smaïl Hacher, en 14 ans, c'est-à-dire entre 1999 et 2014, avez-vous vu, vous, une évolution dans l'accueil des réfugiés, de ceux qu'ils demandaient, ou plutôt de ceux qui avaient été boutés du droit d'asile? Est-ce qu'il y avait il y a eu plus ou moins de déboutés en 14 ans? Est-ce que vous aviez vous-même des consignes en termes d'acceptation ou de refus?
Alors, je voudrais être très très clair sur le dernier aspect de votre question. Moi, je n'ai jamais eu de consignes.
C'est important de le dire.
C'est très important. J'ai participé à plusieurs formations de jugement. C'est ainsi qu'on les appelle à la Cour nationale du droit d'asile. Je n'ai jamais vu soit un président, soit un juge assesseur OFPRA ou HCR être soumis à quelques consignes d'autorité invisible, loin de la CNDA, disant au juge « voilà comment il faut juger ». Je voudrais dire, et je n'en démordrai pas, qu'un très grand nombre de juges sont extrêmement sensibles à la question de leur souveraineté. Ce sont des juges, et ce ne sont pas des officiers de protection. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour ce qui est des changements, ça dépend bien évidemment des périodes, et surtout les taux d'acceptation, les taux de rejet, le nombre de personnes qui demandent l'asile en seconde instance dépend aussi de la géopolitique, dépend aussi des conflits internationaux. Regardez la Syrie,
par
exemple.
Est-ce que ce taux est plus ou moins stable?
Non, la tendance lourde, c'est on demande de plus en plus l'asile et on l'accorde de moins en moins.
Voilà, en 2017, 100 000 demandeurs d'asile.
100 000 demandeurs d'asile, il y a eu environ 37% de CNDA et OFPRA. CNDA et OFPRA.
Acceptés.
Oui, absolument. 37% qui ont été...
Qui ont obtenu le droit d'asile.
Voilà, absolument, qui ont obtenu le statut de réfugié. Mais vous savez, les demandeurs d'asile sont une petite minorité. Hein.
Oui, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure.
La population la plus importante en France, c'est 200 000 entrées par an, 200 000 titres de séjour accordés par an, et c'est d'abord le regroupement familial qui constitue la population la plus importante, et les étudiants. Et je crois même, si mes souvenirs sont bons, les ouvriers, les travailleurs sont une population plus importante en nombre que les demandeurs d'asile. Donc c'est disproportionné. C'est-à-dire les enjeux autour de l'asile ne sont pas à la hauteur de l'enjeu.
Parliez tout à l'heure, Smaïl Hacher, de la crise du droit d'asile. Quand un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, dit qu'il est indispensable aujourd'hui de réguler, de maîtriser les flux migratoires pour sauver le droit d'asile, pour juguler les populismes, dit-il. Comment réagissez-vous, vous qui avez traité ces questions-là?
Oui, alors, je ne suis pas sûr que l'immigration soit la cause première et fondamentale des populismes que traverse l'Europe aujourd'hui. Que ce soit un aspect, que ce soit une dimension, que ce soit une des causes, et à mon avis pas la plus majeure, c'est indéniable. Mais la question du droit d'asile ne relève pas, à mon avis, de processus souterrains menant au populisme. Il y a la crise économique, il y a le rapport à l'Europe, il y a le rapport à l'euro, etc. Donc voilà.
Votre livre est précieux, Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, qui est une sorte d'ethnographie dans l'univers de l'asile, Smaïl Hacher. Votre livre est précieux parce que tout à l'heure nous parlions de ces chiffres qu'on nous assène et de la différence entre les chiffres et les gens. eh bien, vous montrez bien cette tension, ce qui est sans doute le plus difficile, entre le collectif, entre les représentations collectives et le singulier, c'est-à-dire les personnes avec leur récit singulier que vous avez en face de vous. Vous établissez quatre enjeux fondamentaux à la fin de votre ouvrage. Vous dites que votre expérience vous convainc que les déplacements de population constitueront pour la communauté internationale, autant que pour les États souverains, quatre enjeux fondamentaux. Un, la sécurité nationale, c'est-à-dire cette fameuse gestion des flux migratoires. Deux, l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille à tous les pays. Donc, trois, le droit d'asile dans le monde et notamment en Europe. Enfin, quatrième enjeu, celui qui a partie liée, dites-vous, au rapport de domination entre nations, ou autrement dit, celui du droit au développement ou du co-développement. Il est quand même un certain nombre d'enjeux qu'il faut politiquement, auxquels il faut politiquement répondre.
Non, absolument. Et il y en a un qui est, à mes yeux, particulièrement important, c'est l'universalisation du droit d'asile. Car, il ne faut pas l'oublier, le droit d'asile n'est pas aussi universel que cela, n'est pas aussi étendu que cela. Tous les pays ne sont pas dotés d'un droit d'asile interne. Tous les pays n'ont pas signé la Convention de Genève. Et d'ailleurs, on peut parfaitement signer la Convention de Genève et ne pas produire un droit d'asile interne. Vous pouvez vous retrouver très concrètement en Tunisie, en Algérie, en Égypte, par exemple. Dans le monde arabe, il y a 5 pays qui ont signé la Convention de Genève. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Yémen et l'Égypte. Aucun n'a un droit d'asile interne. Et on peut pas dire que, mis à part peut-être le Maroc, mais l'Algérie, le Maroc, le Yémen et l'Égypte, on peut pas dire que ce sont des pays très démocratiques qui ont un soin particulier pour l'accueil des demandeurs d'asile ou des gens qui sont persécutés. Voilà. Donc, mon souci premier serait qu'on universalise et quasiment qu'on impose le droit d'asile à tous les pays qui n'ont pas encore de droit d'asile et qui ne portent aucune attention aux personnes cherchant une sécurité ou un droit d'asile, tout simplement.
Qu'on invente, dites-vous, un droit à l'inclusion politique, pour reprendre la proposition d'Anna Arendt, le monde que vous citez. Le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue. Vous restez avec
absolument.
Nous, Samine Lachère.
Absolument.
8h46 sur France Culture. 8h46, c'est l'heure de l'idée culture. Chaque samedi, une personnalité du monde des idées nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Un physicien, ce matin, vous avez rencontré Étienne Guyon.
Un grand physicien, Mélanie. Professeur à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. C'est aussi un passeur de science. Hein. Il est ancien directeur notamment du Palais de la Découverte. Et puis Étienne Guyon est l'un des quatre auteurs d'un très beau livre qui vient de paraître chez Flammarion. Ça s'appelle « Du merveilleux caché dans le quotidien, la physique de l'élégance », et c'est effectivement le regard de quatre physiciens sur l'élégance de la matière, des objets qui nous entourent. Ça va de la feuille de fougère aux courbes de la tour Eiffel, en passant par les bulles de champagne. Et justement, révéler la beauté tout en l'expliquant scientifiquement, c'est assez proche du texte qu'a choisi Étienne Guyon pour son idée culture.
L'œuvre dont je vais vous parler, c'est très prétentieux, ce sont Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables, cette œuvre monumentale, avec une histoire compliquée, riche, et je ne vais certainement pas vous en parler, je vais simplement aller me promener dans un petit endroit. Ce petit endroit, c'est une maison rue Plumet, que Jean Valjean avait achetée pour lui-même et pour Cosette, et dans lequel se trouve un jardin merveilleux, un jardin livré à lui-même, à l'abandon. Ce que j'ai aimé dans cette œuvre, dans ce roman, comme dans d'autres romans de Victor Hugo, c'est justement ce qui est à côté. Les petites choses, par exemple dans Les Misérables, vous avez des descriptions extraordinaires des fontis de Paris, des égouts, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi. Le chapitre que j'ai choisi s'appelle « Folis ac frondibus » avec des feuilles et des frondes, c'est tiré finalement d'une phrase de Lucrèce. Il démarre comme Victor Hugo sait le faire, en disant dans ce chapitre « Rien n'est petit en effet ». Quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature le sait. L'algèbre s'applique aux nuages. L'irradiation de l'astre profite à la rose. Aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'eau d'ébépine est inutile aux constellations. Qui donc peut calculer le trajet d'une molécule ? Maintenant, on peut le calculer. Que savons-nous si des créations de monde ne sont point déterminées par des chutes des grains de sable ? Moi, je suis physicien des milieux granulaires. Bien évidemment que les créations de monde sont dues aux chutes de grains de sable. Qui donc connaît les flux et les reflux réciproques de l'infiniment grand et de l'infiniment petit? Le retentissement des causes dans les précipices de l'être et les avalanches de la création. Un ciron importe. Le ciron, c'est le plus petit insecte que l'on peut voir à l'œil nu, qui est décrit par Pascal. Le ciron importe, madame. Et alors on peut continuer tout au long, puisque cette maison de la rue Plumet, c'est une rue qui existe, qui est pas très loin de Montparnasse, si vous voulez. Cette maison donne l'occasion à Victor Hugo de pouvoir aller dans cette exploration du petit au grand, du grand au petit. C'est amusant. Là où finit le télescope, le microscope commence. C'est véritablement... on sent ce jardin. Alors, il a un intérêt dans l'histoire, c'est que Cosette et Marius vont s'y retrouver et s'échangeront leur premier baiser sur un banc de cette maison, évidemment en cachette de Jean Valjean. Mais voilà, c'était... Et cette maison, alors on le retrouve chez Victor Hugo. Victor Hugo avait une correspondance suivie avec son épouse et lui faisait part effectivement de ses intérêts scientifiques, curieux. Vous savez qu'il n'était pas que un scientifique, hein, il faisait tourner les tables, etc. Mais c'est quand même le message auquel j'ai pensé, c'est véritablement... enchaîner toutes ces échelles de la vie, toutes ces échelles de la nature, les faire dépendre les uns des autres. Et dans un sens, dans le livre que nous venons de faire, du merveilleux caché dans le quotidien, il y a une recherche de voir ce qui est évident et merveilleux dans le quotidien. On s'aime les uns les autres, on travaille ensemble, on a besoin, dit Victor Hugo, du soleil au puceron, on ne se méprise pas. On a besoin les uns des autres. La lumière n'emporte pas dans la nature les parfums terrestres sans savoir ce qu'elle en fait. C'est évidemment, tout ceci est métaphorique, mais c'est une métaphore que nous, physiciens ou mécaniciens de la matière et des matériaux, vivons dans ce travail de recherche que nous faisons et qui s'est traduit par un ouvrage récemment. Pour moi, Victor Hugo est un visionnaire, est un visionnaire fou. C'est la personne que j'aurais le plus aimé copier dans ma vie, de loin.
Et vous, Smaïla Cher?
Moi, je suis très impressionné, je suis très touché par ces paroles. Je ne sais pas si ce physicien a des enfants, mais il a des enfants, mais ça doit être un très très beau conteur. Ces enfants doivent être ravis, surtout s'ils sont petits ou s'ils étaient tout petits. Ils ont dû écouter de très très belles histoires racontées sur un ton enchanté. Et par ailleurs, les scientifiques, quand ils se mettent à parler du monde et de la nature, le font toujours avec poésie. C'est moins vrai pour d'autres disciplines, qu'ils le font toujours avec gravité, sévérité. Pensant que le monde dépend de leurs paroles, mais aller chercher les petits riens, les petits indices qui font le monde de la nature,
du soleil, et les écusserons, on ne se méprise
absolument
pas.
Non, vous trouvez c'est absolument extraordinaire, c'est Mélanie, voilà, ce sont des poètes.
Et les chercheurs précisent dans le livre à la fin que ce livre n'aurait pu aller à son terme sans la patience et l'aide de leur famille et tout particulièrement des jeunes à qui s'adressent ces éléments de curiosité et de culture scientifique.
Voilà.
On va vous faire entendre un autre conteur, alors dans un tout autre registre, le registre culinaire, le registre gastronomique. C'est l'ami Jackie Durand de Libération, puisqu'il est 8h53, Smaïla Nacher, c'est l'heure des mitonnages de Jackie. Bonjour Jackie.
Bonjour Caroline.
Alors pour cette avant-dernière chronique de la saison, vous avez choisi de nous parler d'un fruit de l'été, la figue, et de son arbre, le figuier.
Oui, j'ai choisi de vous parler du figuier parce que c'est un drôle de zig, le figuier, à vrai dire. C'est un rebelle des friches urbaines, un anti des jardins de Rupin, une vigie des ruines millénaires. Il résiste à tous les oublis quand on se souvient par exemple des figuiers peuplant la ville fantôme de Kayakoye. C'est en Turquie, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Et quand on regarde le figuier, on pense aussi à d'autres arbres. Par exemple, l'acacia, sa dureté qui fait des fameux piquets, la majesté du chêne qui rassure, la vaillance du noisetier qui fait des haies vives. Mais plus que tout... nous, on a un amour pour le figuier qui nous hypnotise par son instinct de survie, son humilité. Il se contente de peu de terre, sa force tranquille, il soulève comme ça les vieilles dalles. C'est sûr, on se dit qu'un jour, on plantera un figuier. Vous savez, on se lèvera comme ça à la fin de la nuit, on prendra un petit café, On ira voir l'aube avec notre figuier. Et puis on débusquera ce trait de lumière orangé entre le gris de la mer, d'huile et l'azur, juste à ce moment du levant. Il y aura une terre, mais pas beaucoup de terre. Elle sera rêche, ingrate, attachée comme ça. Notre figuier, il sera attaché à cette terre parce qu'il aimera aussi les rochers pointus où il se faufilera. Accroché à sa pente drue, il n'aura pas besoin d'engrais, pas de système d'irrigation. Il vivra de l'air du temps, torride en été, incertain en hiver. Et qui sait, peut-être, il y aura de la neige sur notre figuier à Noël. Tandis que nous, on se souviendra, vous savez, du sucre laiteux des feuilles de figuier qu'on peut d'ailleurs rouler en cuisine avec, par exemple, du poisson au barbecue.
Qu'est-ce que vous ferez des figues, des fruits de ce figuier?
La figue. D'abord effleurer son ventre rond et sombre en songeant aux délices à venir. Puis fendre sa peau lisse et douce pour atteindre la chair fondante. La figue, c'est un fruit charnel et charnu dans lequel on s'abandonne quand le soleil est plus pâle, quand les frondaisons se parent d'or et de fauve, quand l'atmosphère se charge de senteurs fanées. Ce n'est pas le démon de midi dans votre corbeille, mais ça y ressemble. Parce qu'assurément, la figue, c'est le fruit de l'été, mais aussi de sa faim. Quand il est plus question de ripaille caniculaire, de chair gorgée de soleil, mais aussi de fruits de garde comme la pomme, la poire, la noix. On croque dans une pomme, mais on mord dans une figue. C'est là toute la différence entre se mettre au lit avec le catalogue de la redoute, pour ceux qui le lisent encore, et Tropique du cancer, par exemple. Alors il faut des préliminaires avec la figue. D'abord, la regarder au printemps, quand elle s'en va sur les murs de pierre sèche, contempler le petit arbre buissonnant, plus tard se réjouir de ces petits tétons verts, promesses de fruits savoureux. Ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître l'ombre du figuier au mi-temps de l'été iront cueillir la figue sur un étal. Même dans une barquette, la figue, elle reste drôlement appétissante. On aime la figue, on guillerait plutôt à muse-bouche. Par exemple, vous prenez une figue, c'est extrêmement simple, vous l'incisez en croix avec un couteau, vous introduisez à l'intérieur de la chair quelques dés de fromage bleu, d'Auvergne, de Gex, de la Fourme d'Ambert, du Stilton, du Roquefort, ce que vous voulez.
Du chèvre aussi, non?
Ah oui, bien sûr, du chèvre d'Ardèche, par exemple.
Ah oui.
Ou de la Lozère. Et vous ajoutez quelques lamelles de bacon ou de la poitrine fumée ou même rien du tout,
oui,
si vous préférez
rien,
être complètement vegan. Quelques gouttes d'huile d'olive, vous donnez quelques tours de moulin d'un bon poivre noir, le Sarawak, notre préféré. Vous enfournez dans votre four préchauffé à 180 degrés et quand vos figues comme ça commencent à rôtir, vous les sortez, vous dégustez par exemple avec un verre de Riesling tuilé, mais aussi un joli vin de soif d'été, c'est très bien. On a aussi une autre recette, je ne sais pas si on a le temps de la donner.
Oui, allez.
Allez, c'est une salade aux figues, aux noix et aux pecorino jeunes. C'est de Sabrina Gayour, dans un très beau livre qui s'appelle Sirocco. Ça parle des saveurs des confins de l'Orient. C'est publié aux éditions Hachette. C'est très simple. Vous prenez des figues pour 4 personnes, donc 4 figues, 100 g de mesclun, 300 g de pecorino jeunes frais ou de la feta si vous ne trouvez pas de pecorino, des noix que vous coupez en morceaux, de l'huile d'olive pour arroser le tout, du vinaigre vieux et épais. Alors ce qui est bien, c'est de rajouter des herbes de l'été, par exemple de la menthe. Ou même, moi, je mettrais de la roquette aussi, du poivre noir, du moulin. Vous les coupez en quatre, vous les disposez avec le mesclun et les quartiers de figue, bien sûr, dans une jatte peu profonde ou un joli plat. Vous émiettez le fromage dessus, vous répartissez les noix, vous ajoutez généreusement de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, vous poivrez, parsemé de feuilles de menthe. Il n'est pas beau l'été?
Il n'est pas beau l'été, Smaïl Nacha. Oui. Vous aimez les figues?
Alors, j'adore les figues et je visiblement, il adore les figues. Il n'en parle pas simplement savamment, mais je suis persuadé qu'il aime les figues. Alors, les figues, c'est un peu comme l'olive. C'est la Méditerranée. Mais la figue, j'en ai mangé, je crois, pour la première fois en Algérie. C'était le premier arbre qu'on m'a montré et j'avoue que j'ai adoré, mais j'adore les gâteaux aux figues.
Smaïl Nacher, merci beaucoup d'être venu. Il y a une tradition dans cette fin d'émission, c'est qu'on demande un choix musical à l'invité. Vous aviez très envie d'entendre, et nous aussi d'ailleurs, Leonard Cohen, le chant du Partisan, de Partisan. Mais nous avons appris ce matin la mort de Jeffrey Oryema. Jeffrey Oryema était un musicien d'origine ougandaise. Il est mort hier à Lorient à l'âge de 65 ans. Il avait composé la musique du film Un Indien dans la ville avec Tonton David et Manu Katché. Il était fils d'un ancien ministre assassiné par le dictateur Idi Amin Dada, arrivé en France en 77. En 2002, il confiait « Je ne pourrais plus vivre ailleurs qu'en France. Ce pays m'a tendu les deux bras. » Cette chanson qu'on va entendre a donné son générique au Cercle de Minuit. « Yé, yé, yé », extrait de son premier album « Exile, exil » 1990. « Très très belle chanson, yeah yeah yeah. Merci beaucoup Smaïl Nacher.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu ce matin. Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, c'est chez Gallimard. Demain à 18h, dimanche et après, posera également cette question migratoire vue par des journalistes européens.